P.S. I love my job. Le podcast. Je suis Mélanie Thuillard, coach en leadership, et je vous invite à vous accorder 15 minutes pour apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. Et si ça vous tente pas, ça vous prendra le même temps pour en apprendre un peu plus sur vous ou sur vos collègues. Prêt ? Alors ça commence maintenant ! Épisode numéro 3, le surmenage. Cette semaine, nous allons donc aborder ce sujet qui nous touche tous de près ou de loin, le surmenage au travail. Oui, parce que peut-être ça nous est arrivé à nous, mais si ce n'est pas le cas, nous avons tous déjà entendu des gens autour de nous épuisés, qui ont dû s'arrêter pendant des semaines, pendant des mois, qui ont été au bord ou qui ont fait ce fameux burn-out. Oui, le surmenage en entreprise, c'est une réalité toujours si proche, mais à la fois si éloignée. Je l'ai presque vécu, il y a exactement 10 ans, un lundi de mars 2012. Il est 10h du matin et je me lève pour prendre un dossier. Jusque-là, tout va bien, mais je sens le sol bouger sous mes pieds. Est-ce que c'est un tremblement de terre ? Bon, à voir la tête de mes collègues, non. Enfin, si c'est le cas, je suis la seule à le ressentir. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai un petit peu trop tiré sur la corde. Alors je m'arrête et je prends 3 semaines de vacances pour me reposer. Je ne suis pas en burn-out, c'est pas si grave, je suis juste surmenée. Non, moi je ne ferai jamais de burn-out. Cette phrase, je l'ai dite, comme beaucoup d'autres l'ont dit aussi. Et ce qu'il y a, c'est que la quasi-totalité de ceux qui en ont fait un, t'es sûr qu'ils n'en seraient jamais sujets. Est-ce que c'est une coïncidence ? Eh bien non, car si le burn-out est un état déclenché par de multiples facteurs, le dénominateur commun est qu'il n'arrive qu'à ceux qui, certes, ont de grandes qualités, qui sont de grands travailleurs, sont rigoureux, voire perfectionnistes, mais qui aussi sont ceux qui ne savent pas s'arrêter à temps. Cet épisode de 2012 a sans doute été une grande chance pour moi pour ne pas en arriver à ce fameux burn-out. Car dès mon départ, j'ai été remplacée au pied levé par une spécialiste de mon domaine qui a été engagée en catastrophe pour remplir mon cahier des charges, puis à qui un rapport a été demandé. Elle a rendu un constat qui était sans appel, ce n'est pas le job d'une personne, mais de 2, au moins. Alors de retour après 3 semaines, une personne était sur le point d'être engagée pour me seconder, et je suis donc sereinement revenue à mes fonctions. Oui, j'ai eu beaucoup de chance que mes supérieurs de l'époque aient eu la présence d'esprit de faire changer les choses, surtout rapidement et avec efficacité. C'était une belle preuve de leadership et d'écoute de leurs équipes qu'ils ont démontré ici. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas. À vrai dire, à ce que j'entends, ce n'est plutôt que rarement le cas. Mais revenons-en à la cause. Comment en arrive-t-on au surmenage, voire au burn-out ? Si les causes sont multiples, qu'elles sont à la fois la faute, d'une certaine manière, des conditions extérieures, elles le sont aussi des conditions intérieures, et on en parlera tout à l'heure. Mais parlons d'abord de ces conditions extérieures, celles dont l'employé en bout de chaîne n'a aucune maîtrise. Eh bien, tout d'abord, de toute évidence, ça commence par une surcharge de travail. Et cette surcharge, qui s'installe sur la durée, comment est-ce qu'elle arrive ? Eh bien, souvent, c'est provoqué par un management qui sous-estime le temps nécessaire pour l'accomplissement de toutes les tâches. Ou bien alors ce même management qui demande un niveau de qualité ou de précision qui est difficilement atteignable, voire impossible. Ou encore, ce même management, vous allez me dire, il n'y a que le management, qui ne juge pas assez bien les compétences de ses employés au moment de la distribution du travail. Tout ça, c'est autant de raisons de voir des employés au mieux stressés, au pire épuisés. Et là où tout s'empire, c'est quand on ajoute à cette surcharge un manque flagrant de reconnaissance, une incapacité à définir correctement les rôles et les responsabilités qui laissent les employés dans un flou complet, et aussi une incapacité à réagir vite à une situation qui peut très rapidement s'envenimer. On parle ici d'un management parfois tyrannique, ou alors tout du moins mal équipé, qui souffre d'un manque flagrant de leadership. C'est souvent surtout ça qui est diagnostiqué par les principaux intéressés comme étant la cause numéro un de leur surmenage. Ce surmenage, bien sûr, qui peut nous mener au burn-out. Mais il faut pas croire qu'il y a que les conditions extérieures qui déclenchent ce genre de situation. Non, cet environnement subi par les employés ne suffit pas toujours à faire vaciller les individus eux-mêmes. D'ailleurs, si c'était le cas, des teams entiers se feraient arrêter par leur médecin en même temps. Et ça, ça n'arrive généralement pas. Il y a donc bien des critères individuels qui entrent en cause. Et au plus vite on en prend conscience, le mieux on pourra agir dessus et éviter d'en arriver au craquage. Quels sont alors ces critères? Eh bien, voici quelques-uns. Eh bien, il y a tout d'abord notre mindset. Le mindset, c'est tout ce qu'on croit être vrai. C'est notre vision du monde. Plus précisément, dans ce cas précis, c'est la vision qu'on a de notre rôle d'employé. Voici quelques exemples. On peut penser que c'est ce qui est attendu ici par tout le monde. Ou alors on peut penser que personne ne fait rien pour régler ce genre de situation. Ça peut être aussi un type de mindset qui revient et qu'on croit être vrai, qui est « il faut toujours travailler dur ». Ou encore, ceux qui se plaignent finissent toujours par se faire virer. Et il y en a encore des belles du genre « je n'ai pas le temps de déléguer de toute façon »,« je n'ai pas le choix » ou le fameux « le burn-out, c'est pour les faibles ». Ce genre de système de pensée, ces fausses vérités, improuvables et invérifiables, eh bien c'est ce qui peut très facilement nous emmener tout droit dans le grand danger de l'épuisement. Enfin, vous me direz, ce ne sont que des pensées. Ça peut pas être bien dangereux. Mais il ne faut jamais sous-estimer l'impact de nos pensées sur nos actions ou nos inactions, car c'est considérable. Parce que quand on décide que tout ça est vrai, on s'enlève évidemment la possibilité de demander efficacement de l'aide ou simplement de poser nos limites. Ce qui serait pourtant les actions salutaires à prendre pour éviter de se retrouver en surmenage. Mais il peut y avoir d'autres critères, comme par exemple notre niveau individuel de sensibilité. Notre sensibilité, elle se déploie ou elle se contracte selon notre culture, notre genre, notre éducation surtout, nos conditionnements et même notre biologie. Non, nous ne sommes pas tous égaux. Et cette sensibilité peut pourtant longtemps rester invisible, bien enfouie sur la bienséance par besoin de se conformer. Pourtant, ces différences de sensibilité, elles expliquent bien pourquoi deux employés avec une même charge de travail, subissant la même pression, pourraient réagir de manière quasi diamétralement opposée. Exemple, quand l'un sera outré, voire même consumé par un manque de feedback de la part du management, l'autre pourra ne même pas l'avoir remarqué. Pourtant, celui-ci ne supporte pas et tentera de se rebeller contre l'autorité, alors que l'autre rigolera des gesticulations de leur boss. Et cette sensibilité propre à chacun, elle n'est écrite nulle part. Impossible de la trouver, imprédictible, on ne la trouve sur aucun CV. Mais alors, en sachant ça, est-ce que c'est pas un peu un jeu dangereux que de vouloir se conformer à tout prix aux règles tacites, aux rythmes, en un mot à la culture de l'entreprise qui nous emploie? Ce besoin ou ce désir d'appartenir peut provoquer un manque de recul et de respect pour notre propre individualité, ce qui peut devenir un facteur majeur d'épuisement, surtout quand il n'y a pas d'espace, qui est souvent le cas, pour ressentir et exprimer librement ses émotions. Pourrait-il y avoir d'autres critères? Bien sûr, il peut y en avoir plein, encore quelques-uns à vous partager. Un autre critère sans doute sous-estimé, car inavouable, c'est que le burn-out est malheureusement parfois encore considéré comme un badge d'honneur. Et le seul moyen de trouver la considération tant recherchée de sa hiérarchie ou de ses pairs. Mais pire encore, l'épuisement qui entraînerait un arrêt de travail serait pour certains le seul moyen de se sortir d'une situation qui ne leur convient plus, incapable de faire une autre décision que de laisser leur état physique décider de leur sort à leur place. Je ne dis pas que c'est facile. Mais on voit ici qu'il y a des moyens quand même individuels d'agir contre ce surmenage pour éviter de tomber mais les deux pieds dedans. Parce que tous ces critères individuels que je vous cite, ils sont de près ou de loin en lien avec les histoires qu'on se raconte. Vous savez, ces histoires qui prennent leurs origines souvent dans nos peurs. Et ces peurs, elles sont parfois conscientes et parfois aussi inconscientes. Et le sujet est extrêmement important. Parce qu'en Suisse, le nombre d'arrêts de travail a augmenté de 50% comparé aux chiffres d'il y a 10 ans. Et puis devinez quoi ? Dans 6 cas sur 10, ces arrêts sont dus à des burn-out ou à des dépressions. Selon le SECO, le coût financier lié au stress au travail est estimé à quelque 4 milliards de francs par an. Oui, rien que ça, 4 milliards. Bon, maintenant qu'on sait tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Eh bien, l'idée, ce serait déjà que les responsables d'entreprise commencent à prendre tout ça un tout petit peu plus au sérieux. Comment ? Eh bien, en investissant. Mais en investissant massivement. Et ces investissements vont avoir des effets positifs bien au-delà de la question du stress au travail. Je parle ici de développement de leadership, mais le leadership pas uniquement pour les managers, mais pour les employés à tout niveau. Un investissement aussi dans des formations et des workshops qui traitent de la maîtrise des émotions. Et aussi en mettant en place des systèmes d'évaluation des managers, principalement, qui seraient basés sur leur capacité à gérer leurs équipes et non seulement sur les résultats qu'ils amènent à l'entreprise. On peut aussi s'attendre de ces entreprises qu'elles investissent dans des cours de communication, mais une communication humaine et authentique, dans, je sais pas, la recherche de profils de personnalité qui soient adéquats et qui aident vraiment les équipes à se comprendre les unes les autres. Bref, des idées, il y en a plein, il y en a des dizaines, des milliers pour améliorer la vie des employés et aussi pour sauver des coûts. Car oui, on l'a vu, le stress, le surmenage et le burn-out, ça coûte très, très, très cher. Et maintenant, individuellement, quand on est déjà un manager, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de voir ses employés partir en burn-out ? Eh bien, on commence par les écouter. Les écouter, hein. On ne laisse pas ses employés durant des semaines, voire des mois, dans une situation de stress, quel que soit le projet top important à accomplir. Si vous êtes manager, assurez-vous de donner du support pour d'abord vous assurer que l'organisation du team et individuel soit optimum. Et puis ensuite, chercher à obtenir une aide qui puisse aller directement sur le terrain et être mise en route par vos soins. Parce qu'on ne demande pas à quelqu'un qui est au bord du surmenage de mettre en place lui-même une nouvelle façon de travailler ou d'organiser une délégation. Vous développerez ces compétences bien plus tard quand la tempête sera passée. Mais surtout, écoutez pleinement et comprenez vos différences. Ne vous basez pas sur votre propre expérience, sur votre propre sensibilité pour juger la validité d'une plainte. Votre sensibilité est unique, celle de vos employés l'est également. Et maintenant, je m'adresse à vous. Si vous, vous vous sentez glisser dangereusement vers le surmenage, eh bien, agissez. Vous n'avez bien sûr pas la main sur les actions de votre management, ni vous ne pouvez pas tout régler, toutes les conditions extérieures. Tout n'est pas sous votre maîtrise. Mais n'empêche, parlez-en. Demandez spécifiquement de l'aide à votre hiérarchie ou votre responsable des ressources humaines, afin qu'ils prennent les choses en main pour déjà vous soulager d'une partie de vos tâches. Alors ça paraît facile comme ça, mais si ça vous semble impossible, eh bien travaillez alors vos croyances. Vous savez toutes ces histoires que vous vous racontez. Faites-vous aider par un professionnel pour comprendre vos mécanismes et vos réactions émotionnelles. Ça va vous aider à manager votre sensibilité tant qu'elle est encore gérable. Ça va vous aider à renforcer votre leadership et à prendre les décisions qui s'imposent avant que votre corps ne le décide à votre place. Alors nous, les coachs, bien sûr, on sert à ça. Et le travail fait dans ce genre d'accompagnement est très très efficace, à la seule condition de ne pas attendre que quelque chose soit cassé et qu'il faille d'abord prendre du temps pour le réparer. Finalement, et c'est sur cette réflexion que j'aimerais vous laisser, demandez-vous, et si je n'avais pas peur ? Vous savez, peur de décevoir, peur de perdre mon emploi, peur de paraître faible ou je ne sais pas quelle autre peur. Si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais ? Cette question, mine de rien, pourrait bien enclencher les actions nécessaires à vous sauver et vous faire à nouveau aimer votre job. Alors, est-ce que ça vous a parlé ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentant, aimant ou partageant cet épisode. Merci d'avoir été avec moi, je me réjouis de revenir dans 2 semaines avec un nouveau sujet pour vous aider à apprendre, réapprendre ou continuer à aimer votre job. À très bientôt !